d'église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence pour un nouveau numéro de Vivante Église. Merci de votre fidélité à l'écoute de ce programme. Est-ce que vous connaissez Fidesco, les missions que cette ONG catholique de solidarité internationale organise un peu partout dans le monde? Peut-être pas encore, alors écoutez bien l'émission qui va suivre. Vous allez en savoir plus dans quelques instants avec mes deux invités, Solène de Laverne et Adrien Akamlich. Bonjour Solène de Laverne, bonjour Adrien Akamlich, bienvenue bonjour. À tous les deux et merci de vous être rendu disponible pour participer à cette émission parce que je sais que ça a été un peu compliqué. Vous vous apprêtez l'un et l'autre à partir en mission Fidesco avec votre compagnon pour Solène et votre compagne pour Adrien, sans oublier bien sûr vos enfants. Alors je précise, vous avez raison, avec votre mari Solène et avec votre épouse Adrien. Vous partez aussi avec vos enfants, hein, vous en avez quatre chacun de votre côté. Ce sont des projets qui se décident et se réalisent en famille. Nous allons en parler bien sûr. Avant cela, il faut qu'on rappelle ce qu'est Fidesco, ce qu'est la vocation de cette organisation non gouvernementale. Je traduis ONG pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme. Et pour savoir quelles sont les actions qu'elle mène à travers le monde, qui se charge de nous présenter ça? Vous allez nous faire ça de concert?
Alors oui, Fidesco est une ONG de solidarité internationale créée en 1980. Voilà, donc plus de 45 ans de mission et presque 2500 volontaires envoyés depuis sa création.
Voilà. En 2025, par exemple, il y avait 177 volontaires sur le terrain répartis dans 24 pays. Voilà, donc Fidesco a répondu à l'appel de partenaires, l'année dernière environ 75. Qui ont demandé de l'aide sur place pour différentes missions. Et donc Fidesco y a répondu.
Alors c'est une ONG, je ne l'ai pas dit, mais qui est française, hein, créée en 1980 en France, avec des antennes en province. Il y a un siège à Paris, mais il y a des antennes en province sans doute, en tout cas des relais.
Des relais, voilà.
Relais en province. Et les missions, c'est aux quatre coins du monde, sur tous les continents. Donc c'est l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et également l'Europe. Avec des partenaires donc, qui font appel à Fidesco. Alors les partenaires en question, ce sont plutôt des paroisses, des diocèses locaux?
Je pense en majorité des diocèses, nous avons des évêques, mais il peut aussi y avoir des communautés religieuses qui demandent de l'aide, des associations.
Nous, on a par exemple l'Ordre de Malte sur place, donc, ouais. Qui est une organisation millénaire, voilà, donc, qui vont nous accueillir et ils ont participé à la construction de l'hôpital en question. Voilà.
Alors, je l'ai dit, donc sur tous les continents, dans quel domaine? C'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'action sociale, l'environnement, c'est à peu près ça?
Vous avez presque tout dit. Je pense que c'est en majorité l'éducation. Il y a beaucoup d'appels dans ce domaine-là, le domaine de la santé, animation sociale, et puis beaucoup de gestion de projets divers, notamment des évêques qui appellent sur des projets du diocèse qui sont divers et variés.
Chaque mission, c'est 2 ans pour les familles. Je crois que ça peut être 1 an lorsque c'est une personne seule qui part, un ou une célibataire. Ça. Mais sinon, c'est 2 ans. Et c'est 2 ans sans rentrer en France.
C'est ça. Alors, ouais. Ça peut paraître long, mais c'est vrai qu'au début, nous, on pensait que c'était super long. Mais après, tout est plutôt bien organisé. Et 2 ans, il faut que nos petits à l'école s'adaptent. Il y a une acclimatation, en fait, une adaptation. Et une année scolaire, ça va assez vite. C'est à peine 10 mois. Et puis nous, il faut qu'au niveau du travail, notre soutien aux populations, il faut qu'on puisse s'adapter. Ouais. Et puis, donc la deuxième année, en fait, on est déjà presque sur le retour. Ouais. Donc ouais. Ça va assez vite. Ouais.
Je dirais que par défaut, les partenaires préfèrent 2 ans. Par défaut, c'est 2 ans, en fait, parce que le temps de se mettre dans la mission et de pouvoir vraiment se rendre utile sur place, 2 ans sont nécessaires. Et c'est plutôt qu'il y a une proposition pour les célibataires qui sont plus jeunes et qui ne peuvent pas faire une parenthèse de 2 ans de leur vie parce qu'ils sortent tout juste de leurs études ou parce que... Voilà. Donc c'est une possibilité qui leur est donnée de ne partir qu'un an.
Ce qui va intéresser, je pense aussi, nos auditeurs, c'est de savoir comment sont financées ces missions et comment est financé Fidesco. Alors ce sont essentiellement des dons individuels.
Pour l'essentiel. 75% de dons individuels, donc c'est une part très importante. Il y a quelques subventions publiques, mais qui ont plutôt tendance à baisser avec les années.
Oui, comme partout ailleurs, dans tous les domaines, ça baisse. Donc, voilà pour les partenaires de Fidesco, donc acteurs du développement, on peut-être c'est ce qu'on peut résumer hein, depuis 45 ans maintenant, aux côtés de partenaires de l'Église. La question que je vais vous poser évidemment maintenant, et c'est celle que se posent nos auditeurs, c'est comment on s'engage sur ce chemin d'une mission humanitaire Fidesco en famille, parce qu'on n'engage pas que soi, on engage son compagnon, sa compagne, son mari, sa femme, et puis ses enfants, éventuellement même le reste de la famille, parce que ça veut dire aussi que pour les grands-parents, ils ne vont pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants pendant 2 ans, sauf si eux-mêmes vont sur place. Donc comment il se fait ce cheminement, et peut-être d'abord comment vous avez eu le contact avec Fidesco, la mise en relation, Solène peut-être.
Alors moi je connais Fidesco depuis longtemps parce que je connaissais des personnes qui avaient fait ce choix de la mission il y a 10-15 ans, mais c'était dans un coin de ma tête assez lointain. Et avec mon mari, ça fait quelque temps qu'on se pose un peu la question de comment on pourrait servir, comment on pourrait se donner. Et c'est pas facile quand on a 4 enfants petits de donner du temps, d'aller passer du temps dans des associations pour aller servir les plus pauvres. Et tout d'un coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas l'occasion de partir en famille? Est-ce que cette aventure de la mission à vivre en famille serait pas une bonne idée? Ça veut dire qu'on embarque les enfants avec nous. Ça a germé petit à petit. Et en fait, on a été très attirés par ce détachement de notre vie de confort, de notre routine actuelle, ce côté accepter de se laisser déraciner par un gros changement nous attirait beaucoup. Et nos enfants étant plus trop petits, pas trop grands encore,
on s'est dit... Ils ont quel âge, vos enfants respectifs, pour situer les choses? Vous êtes jeunes tous les deux, vous n'avez même pas 40 ans.
On est très très jeunes.
Ouais.
Ils ont entre 2 et 9 ans.
Ouais. Et vous, je crois que c'est pareil.
Pareil, ouais. 8, 7, 4,5 et 2.
Donc c'est quand même des enfants bas âge qui pour certains sont scolarisés, d'autres pas encore, mais qui vont l'être et qui seront pour certains pour la première fois là-bas.
Nous, ils seront tous scolarisés et notre aîné sera même au collège la deuxième année de notre mission.
Oui, oui.
Voilà, et Fidesco essaye de ne pas faire partir de famille avec des enfants au collège, ou alors de manière exceptionnelle, mais il considère qu'à partir de l'âge du collège, les enfants sont... C'est plus difficile de les déraciner, de les adapter à quelque chose de très différent. Et le retour est plus dur aussi. Voilà. Et du coup, on savait qu'on était dans la bonne tranche d'âge de nos enfants.
Alors Adrien, ça s'est passé comment de votre côté, avec votre épouse, pour faire ce choix? Comment le cheminement s'est-il fait, la prise de décision?
Donc en quelques mots, nous on est partis, on a fait un voyage touristique en 2023. On est partis 3 mois. Et au retour de ce voyage, c'est en Europe, hein. Donc on a fait les touristes à fond et puis en camion en fait, on avait 3 enfants à l'époque, et on est revenu chez nous avec un quatrième et on s'est dit il nous manque quelque chose de plus profond, quelque chose de plus grand à réaliser peut-être, et ça a germé depuis. Et puis là cette année, fin d'été 2025, donc c'était courant septembre, Emily au travail, je pense que c'était un peu difficile, moi aussi un petit peu.
Émilie est votre épouse.
Voilà, Émilie, c'est ma femme. C'est ma femme. Et elle cherche, elle avait une pause, et elle cherche sur son ordinateur quelque chose lié au voyage ou peut-être quelque chose de plus profond, un peu comme l'humanitaire. Donc elle va sur Google, très simple, humanitaire. Et puis elle a trouvé. Le soir, elle rentre, les yeux brillants, pétillants. Elle me dit, j'ai trouvé un truc, il faut que je t'en parle. Et là, elle me parle de Fidesco en quelques mots. Et moi, je lui dis, OK. C'est parti. Donc, on a cheminé, en fait. On est parti, on s'est renseigné. On a fait d'abord une visio avec Bruno Champion, qui nous faisait des visios.
Donc, qui est un permanent de Fidesco.
Oui,
responsable du recrutement.
C'est ça. Le relais pour les recrutements. Donc, c'est la personne qu'il faut contacter lorsque l'idée commence à germer dans une famille.
Ouais. Donc, on l'a eu, je crois, par mail d'abord et puis par téléphone. Hein. Très simple. C'était facile. Le contact a été très simple et très amical. Donc on a discuté avec lui, puis on a eu un lien pour une visio avec d'autres personnes, et puis on a eu un témoignage également en visio, et puis on s'est lancé sur une semaine c'est la première semaine en février de discernement. C'est un peu comme un séminaire, si vous voulez.
Oui, au séminaire, il y a la période de discernement avant de vraiment faire les vœux. Là, toute proportion gardée, c'est un peu pareil. Il y a une période où vous allez vous questionner, mais où aussi on va vous questionner.
Oui.
Pour être certain que vous faites ce choix en toute connaissance de cause, en ayant bien pesé le pour et le contre pour vous et pour la famille. Parce qu'encore une fois, c'est une décision familiale.
Et le discernement se fait de notre côté et du côté de Fidesco.
Oui, voilà. Ben oui, bien sûr.
Qui se laisse libre aussi de nous donner son avis sur ce qui lui semble juste, si notre décision lui semble juste.
Oui, oui. Des entretiens psychologiques, des entretiens avec eux, avec différentes personnes de l'équipe. Ouais, on a cheminé comme ça, petit à petit, avec des témoignages aussi d'anciens
Alors,
volontaires.
J'allais vous poser cette question. J'imagine que Fidesco vous met en relation avec des couples qui ont fait la démarche précédemment, qui, eux, ont passé ces 2 ans dans un pays étranger.
Je dirais qu'avant le oui définitif, il ne nous met pas en lien avec des anciens volontaires. On a cette session de discernement au cours de laquelle on peut en rencontrer, parce qu'il y a des familles qui témoignent. Voilà, c'est vraiment pendant cette session.
Donc, ce n'est pas obligatoire, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ils ne vous mettent pas systématiquement d'emblée en relation avec des familles qui ont fait la démarche avant vous.
Non, on a des témoignages au cours de cette session discernement. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a dit oui, on est très en lien avec pas mal de familles qui ont vécu ça avant nous.
Oui.
Après, Fidesco est très fort en communication. Ils ont un site internet très bien fait. Ils ont une chaîne de podcast aussi qui m'a beaucoup touchée. De familles qui sont parties en mission et qui témoignent, enfin pas que des familles d'ailleurs. Donc moi j'étais pas mal écoutée, ça m'a beaucoup donné envie.
Ça vous a conforté dans votre choix.
Que des contacts directs, c'était moi c'est pas mal par ces podcasts que j'ai.
Alors ce qu'on n'a pas dit et ça c'est quand même pas neutre, c'est que vous ne choisissez pas le pays où vous allez partir en mission.
Non.
C'est par tirage au sort, je crois. C'est un tirage au sort.
Ah ben non, c'est pas un tirage au sort, non. Eux, par rapport à notre profil.
C'est par rapport à votre profil qui.
Professionnel, nos motivations, nos aversions, qui vont déterminer en fait une fiche de poste. Et puis en fonction du partenaire et des besoins locaux, c'est comme
et
ça.
Regarde
que...
ce qui cadre le mieux avec votre profil entre guillemets.
On dit ça avec notre regard, hein, parce que eux, c'est plus détaillé, je pense. C'est bien plus.
C'est même un gros travail pour eux de nous dispatcher tous dans les pays parce qu'ils ont un nombre de volontaires qu'ils n'ont pas choisi. Ils ont des missions. Parfois, ça ne colle pas du tout avec le profil des volontaires. Donc, c'est un gros travail pour eux. Et puis, il y a des contextes de pays où on ne peut pas envoyer des familles. Des contextes où être célibataire, c'est moins facile aussi. Donc, c'est un gros travail pour eux de nous affecter sur un pays.
Il y a une longue réflexion tout de même. C'est-à-dire qu'on ne vous envoie pas n'importe comment, n'importe où, sans avoir évalué les risques éventuellement que ça peut présenter, même pour votre équilibre psychologique, tout simplement. Oui. Hein. Alors, vous allez partir, Solène,
votre famille au Cameroun,
et vous, Adrien, ce sera la Côte d'Ivoire.
C'est ça, Côte d'Ivoire à Bodo, à l'hôpital de Saint-Jean-Baptiste à Bodo.
Deux pays que vous ne connaissez pas du tout ?
Pas du tout, moi je n'ai jamais mis un pied en Afrique.
Même pas en Afrique du tout, et vous, Adrien ?
Côte d'Ivoire, oui, nous on a été au Maroc, mais Côte d'Ivoire, jamais.
Ouais, c'est encore... Autre chose, dans la vie, quels sont vos métiers, vos compétences que vous avez assurées jusqu'alors en France ?
Moi, j'ai une formation et expérience en ressources humaines. Actuellement, je m'occupe de mes enfants.
Et votre mari ?
Et mon mari est contrôleur de gestion.
Et vous, Adrien ?
Alors, moi, je suis de formation et toujours en activité jusqu'à cet hiver, donc moniteur de ski.
Ouais, ça va être très utile en Côte
d'Ivoire. Très utile. Je prends mes skis d'ailleurs, donc j'espère qu'ils vont servir.
Sur les dunes de sable.
Sur les dunes de sable, ouais. Enfin, faut-il qu'il y en ait encore. Et du coup, et sinon, j'ai été gérant d'une entreprise jusqu'à il y a peu.
Oui, donc vous avez déjà eu une reconversion aussi.
C'était en même temps.
On a, en même temps.
On a un profil fait plus moi que ma femme, mais j'ai un profil plus entrepreneurial.
Ouais.
Voilà, donc,
et votre femme est infirmière.
Et ma femme, Émilie, donc, est infirmière.
Voilà. Alors, on sait qu'il y a des besoins dans le domaine de la santé. Hein. Fidesco cherche beaucoup dans ce domaine-là. Donc ça... voilà. Alors, une fois que la décision a été prise pour vous, personnellement, je veux dire, comment ça s'est passé au sein de la famille pour présenter ça aux enfants, par exemple ? Comment vous leur expliquez les choses ? Parce qu'il faut qu'ils adhèrent aussi, forcément, Solène.
Nous, on avait organisé une petite... Quand on a eu le oui définitif de Fidesco... on n'en avait pas du tout parlé aux enfants avant. On s'est dit que c'était beaucoup trop tôt, d'autant plus que si ça ne se faisait pas, ce serait dommage. Et donc, on avait organisé une petite soirée avec des plats un peu exotiques de tous les continents, parce qu'en fait, on a su très tard qu'on partait au Cameroun. Donc, on leur a donné plein de photos, pareil, un peu d'Asie, d'Amérique du Sud, et de volontaires sur place. La réaction n'a pas été si simple. Nos enfants, ils ont eu l'impression qu'on leur demandait un truc incroyable. Ils ont compris qu'ils allaient tout quitter.
Et oui.
Et ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient retrouver. Donc,
il y a un petit choc quand même.
Petit choc quand même. Ça n'a même pas été facile au début. Et puis, le temps fait beaucoup les choses. Donc, les choses se sont apaisées. On en a beaucoup parlé. Et puis, quand on a su qu'on partait au Cameroun, ça s'est enfin concrétisé. C'est-à-dire qu'on a pu répondre à leurs questions. On a pu se renseigner sur le pays.
Leur montrer des vidéos,
exactement,
peut-être aussi.
Ouais, beaucoup de photos.
Voilà à quoi ça ressemble.
Et répondre aux questions. C'était ça qui n'était pas facile. C'est que pendant
quelles étaient leurs questions, celles qui revenaient le plus?
Comment ce sera l'école là-bas? Comment sera la maison? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce que ce sera loin? Est-ce qu'on parlera français? Parce qu'il était possible qu'on parte en Amérique du Sud.
Oui, il y avait la barrière de la langue éventuellement aussi. Hein. Mmh. Ouais. Sauf si vous parlez espagnol, mais...
Oui, ouais. C'était pas le cas du tout.
C'était pas le cas. Ouais. Alors vous, Adrien, ça s'est passé comment, la décision familiale et la façon dont vous avez présenté les choses à vos enfants?
Du coup, nous, on leur dit tout. On est transparent avec eux. C'est une démarche différente, peut-être, de
Donc vous leur avez dit avant même que la décision définitive...
On leur a dit que nous, on avait le souhait de partir et de faire un voyage, mais très utile. Voilà. Mais sans plus. Alors, on est resté très vague sur ça et on n'en a pas débattu, voilà, parce qu'on n'avait pas trop de choses concrètes à dire, à expliquer. Et voilà, parce que nous, on partait en séminaire en retraite avec UNESCO, donc il fallait leur dire, nous, on part là, on va faire ça, on va réfléchir à ça. Mais c'est pas sûr, on les rassure aussi, parce que voilà, c'est pas simple aussi dans leur imaginaire. Et puis voilà, le jour où on a su où on partait, bien sûr, on leur a dit tout de suite, on a attendu Émilie qui est rentrée du soir à 20h, enfin le soir à 20h, et on a trouvé la carte, une encyclopédie, on leur a dit, voilà, on part là. Tout de suite, qu'est-ce qu'il y a là-bas comme animaux?
Oui, parce qu'il y a ce bon côté, je pense que c'est la curiosité aussi. Hein.
Est-ce qu'on parle français? Tout de suite, c'est la première question, est-ce qu'on parle français? Oui. Alors déjà, ça
a calmé un peu les
choses. Ils ont soufflé un petit peu. Nous aussi, on était rassurés que ça parle un peu français pour l'école.
Ouais.
Et la question de... j'ai Sacha en tête, là. Sacha, il nous a dit, du coup, chouette, parce qu'il fait chaud là-bas. Donc du coup, on n'a pas école l'après-midi. Tu vois, donc c'était génial. Donc lui, il pense avoir école que le matin.
Ouais.
Et puis, on verra ça sur place, hein.
Oui, alors ça, on en parlera en seconde partie d'émission. De quels moyens, revenus, allez-vous bénéficier sur place? Comment ça se passe? Est-ce que Fidesco vous loge, par exemple? La nourriture, c'est quoi? On vous donne un petit budget pour la famille et puis vous vous débrouillez avec une fois que vous êtes sur place? Expliquez-nous un peu cet aspect des choses qui est loin d'être neutre quand même. Hein.
Des conditions modestes.
Et justes.
Mais justes.
Mais juste. Ouais, c'est ce qu'ils disent.
Le but, c'est d'épouser la vie locale.
Contrairement de vivre comme les locaux.
Contrairement à une vie d'expatrié, on aura vraiment la vie simple, locale. Donc on a un logement qui est fourni par le partenaire. Pour notre part, nous, c'est une maison où il y a des volontaires Fidesco depuis 10 ans. Vous, je sais que c'est un peu différent.
Nous, c'est une ouverture de mission, donc il y a rien. Mais
l'hôpital, c'est la première pour vous.
Mais l'hôpital a 11 ans, donc on peut penser que les maisons sont neuves, parce que nous, on aura une maison dans l'enceinte de l'hôpital, mais ça vieillit plus vite. Les infrastructures immobilières vieillissent plus vite, donc... Voilà, donc ça sera correct.
Et après, donc le logement est fourni. Et après, Fidesco prend en charge aussi l'école des enfants. Et on a une indemnité versée en partie par le partenaire, en partie par Fidesco, qui nous permet de vivre sur place. Donc
c'est calculé. Et on sait qu'avec ce qu'on vous donne, vous pouvez acheter la nourriture, enfin tout le nécessaire, le quotidien, hein, en quelque sorte.
Oui.
Et c'est pareil de votre côté,
c'est pareil,
je suppose, Adrien.
C'est pareil. Et puis si il manquait un petit peu, on en parle avec nos responsables pays. Donc Fidesco, et puis voilà, ils ajustent, c'est simple.
Le but n'est pas qu'on prenne sur nos économies françaises, mais que... Oui,
c'est pas de s'enrichir, bien sûr, ça, tout le monde l'a raconté.
Mais on sera loin de s'enrichir non plus,
Si on est en galère, en fait, il faut pas, quoi. Il faut qu'on soit là pour la population et qu'on soit pas dans le besoin, hein, donc...
Oui.
Mais on va pas vivre comme des expats non plus.
Voilà, c'est ça, c'est pas du tout une vie d'expatrié, avec les avantages que celle-ci peut conférer à ceux qui la suivent. Une fois que la décision est prise, il reste quelle démarche à faire? Donc il y a, pour tous les aspects, je suppose, passeport, pour ceux qui n'en ont pas encore.
Ça, c'est très simple.
Il y a les vaccins, il y a... Les billets d'avion, c'est vous qui devez aussi vous...
Ah non.
Non, c'est Fidesco.
C'est eux, ouais. Ils se chargent
de les prendre.
Ils nous prennent les billets d'avion, c'est à leurs frais.
Alors ça, à leurs frais, oui, mais c'est eux aussi qui s'occupent.
C'est eux.
Nous, on a toutes les démarches de visa à faire nous-mêmes. Passeport, évidemment. Vaccin. Et c'est pas neutre avec les enfants.
Non,
les
vaccins,
c'est un abattage. Hein,
ouais.
4, 5, 6 piqûres.
Oui, il y en a beaucoup.
Énormément.
Ouais.
Et puis, il y a forcément quelques préparatifs parce que le mode de vie là-bas est quand même très différent de ce qu'on... notre mode de vie.
Et l'école sur place, c'est vous qui devez la trouver ou c'est Fidesco qui vous met en relation avec...
C'est pas Fidesco, mais nous, on est en contact avec les volontaires que l'on remplace, et donc on inscrit nos enfants dans la même école qu'eux parce que c'est celles qui nous ont conseillé.
Oui, parce que vous, c'est un remplacement,
voilà.
Une succession plutôt. Mmh. Et vous, Adrien, c'est une prise de poste en quelque sorte.
Oui, alors nous, c'est au sein de l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital, il y a des sœurs. Elles sont 5 ou 6. Et c'est elles qui vont se charger de nous trouver l'école.
Ouais.
Voilà. Donc on avait le choix, école publique, école privée. Et l'hôpital se propose de nous payer les frais de scolarité. Donc on remercie l'hôpital et son directeur.
Bon, en tout cas, on essaye de vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Je vous propose de faire une pause dans cette émission avant de reprendre nos échanges dans un peu plus de 3 minutes. Nous allons notamment évoquer les missions et les tâches que vous allez accomplir, les responsabilités que vous allez avoir une fois que vous serez sur place au Cameroun pour la famille de Solène et en Côte d'Ivoire pour celle d'Adrien. En attendant, nous écoutons la chanteuse afro-américaine Odetta qui chante « Sometimes I feel like a motherless child ».
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la seconde partie de Vivante Église. Je retrouve les deux invités de cette émission, Solène de Laverne et Adrien Akamlich. Tous deux s'apprêtent à partir en mission humanitaire Fidesco avec leurs familles respectives, au Cameroun pour celle de Solène et en Côte d'Ivoire pour celle d'Adrien. C'est un engagement et une mission pour 2 ans, sans retour en France entre-temps. Nous l'avons dit en première partie d'émission. Nous allons maintenant parler de ce qui vous attend sur place et en premier des tâches que vous allez y assurer, parce que c'est ça avant tout l'objet de la mission. Solène, à quoi allez-vous être affectée au Cameroun, vous et votre mari ?
Nous partons donc, nous, en mission au service du diocèse d'Obala, une ville de taille moyenne qui est à 1h30 au nord de Yaoundé, la capitale. On est appelé par donc l'évêque. Moi, je vais être en charge des projets diocésains. Donc, c'est assez divers. Il y aura des projets au niveau de la pastorale, de la santé, la pastorale scolaire. Il y aura une partie recherche de fonds pour financement de ces projets. Voilà, ça sera assez diversifié. Et mon mari sera en charge de l'économat.
Contrôle en gestion, c'est très bien.
Voilà, maîtrise des chiffres. Et ce qui est chouette, c'est que là-bas, le diocèse cherche à être autonome financièrement et donc développe différentes activités qui génèrent du revenu. Ils ont un élevage d'animaux, ils ont une usine de bananes, ils ont un atelier de couture. Voilà. Et donc, lui sera chargé de vérifier que ces activités génèrent du revenu pour le diocèse.
Donc, vous, l'émission que vous allez avoir sur place avec votre mari, ça correspond assez bien à ce qu'étaient vos compétences en France.
Je pense que mes compétences pourront être utiles. Après, moi, je travaillais en ressources humaines. J'ai fait un peu d'accompagnement de bilan de compétences. Donc là, quand même, la gestion de projet, recherche de fonds, c'est un petit peu différent. Mais j'ai toujours aimé travailler en équipe. Voilà. Et donc, je pense que ce sera le cas, là, parce qu'il y a une grosse équipe au niveau des services centraux du diocèse. Donc, je pense que ça va bien se passer, mais ça va quand même être une découverte.
Alors Adrien, de votre côté, vous et votre épouse, alors votre épouse, on en avait parlé avant l'émission, on va pouvoir faire quelque chose qu'elle espérait faire depuis longtemps, qu'elle n'arrivait pas à faire en France.
Exactement. Donc elle a l'opportunité de choisir son service de manière très simple et elle va commencer à mi-temps, a priori. Et elle va choisir le service des urgences, voilà, à l'hôpital.
Alors c'est l'hôpital de Bodo.
De Bodo, oui. Voilà. L'hôpital de Bodo, donc à Saint-Jean-Baptiste de Bodo. Inaugurée en 2015. Et elle va donc assurer ce service des urgences 24 heures sur 24. Et apparemment, il y a beaucoup, beaucoup, énormément d'accidents, puisqu'il y a une autoroute. Et les gens ne savent pas trop. Enfin, ils ne conduisent pas comme nous en France. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'accidents.
Pour ceux qui ont conduit dans les pays d'Afrique, souvent, ça peut être assez sportif et dangereux.
Ouais, c'est mortel. Et du coup, elle va se rendre utile. Voilà, très utile, elle est ravie, donc elle fera les urgences, elle pourra choisir et naviguer aussi avec le service de pédiatrique, voilà, et d'autres services, elle pourra naviguer.
Et vous de votre côté, alors vous allez aussi travailler pour cet hôpital ?
Oui, je vais travailler pour l'hôpital, je vais être donc le bras droit du directeur, voilà, donc je vais intervenir dans un rôle de coordination et gestion de service. En gros, je vois une petite... De ce que j'ai compris, parce que là, ce qu'on nous explique, c'est une chose, mais peut-être sur le terrain, ça sera différent.
Oui.
Donc, je vais coordonner. Donc, je vais avoir une équipe de 6 personnes, 5-6 personnes, et qui est en lien avec des services, donc le parc automobile, les infrastructures immobilières, tout ce qui est contrat intervenant, des prestataires. Et voilà, le but, c'est un peu de contrôler un peu les flux financiers, tout ce qui s'y passe, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Voilà.
L'un et l'autre, quelles sont vos attentes et éventuellement vos inquiétudes avant de prendre vos postes là, pour l'instant, je me limite au plan professionnel, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Parce que vous ne savez pas avec quels collègues vous allez travailler, vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais ça, vous me direz, c'est pareil partout. Même en France, quand on change d'entreprise, c'est la même chose. Mmh. Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça? Ou est-ce que vous savez que vous vous adaptez assez facilement?
Je pars assez sereinement parce que on nous a quand même beaucoup rappelé qu'on n'était pas là pour être utile, mais pour être. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit dans une attitude d'observation, d'écoute beaucoup au début, pour pouvoir après vraiment apporter quelque chose d'utile. Mais donc, je pars assez sereinement là-dessus. Mais il est vrai que je pense qu'ils ont l'Afrique a un mode de fonctionnement différent du nôtre. On change de continent, on change de culture. L'Église est différente aussi là-bas. Donc voilà, je sais qu'il va falloir être que je sois à l'écoute, que j'observe ce qui se passe.
Il y a une phase d'adaptation sans doute.
Et surtout pas arriver avec mes gros sabots d'efficacité occidentale. Plutôt être le challenge, ça va être moi m'adapter au fonctionnement local pour pouvoir apporter quelque chose.
Alors on reviendra sur ce point que vous avez soulevé qui est très important et très intéressant sur les sociétés sur place, est-ce que vous en connaissez? Comment ça fonctionne, les relations entre les gens? Vous, Adrien, est-ce que vous avez des inquiétudes particulières? Parce que, en fait, c'est une création de poste, je comprends bien.
C'est ça, c'est une ouverture de mission, puisque aucune famille n'était on a été là auparavant.
Donc ça veut dire que tout est à faire dans le poste que vous
tout
allez
occuper. Tout est à
occuper.
Faire. Enfin, il y avait déjà quelqu'un sur place, mais voilà, pour des raisons de corruption, parce que là-bas il y a beaucoup de corruption, donc ils voulaient ouvrir un poste, enfin assainir un peu les finances et tout ce qui est autour. Donc
quelqu'un qui arrête de l'extérieur, qui soit neutre.
C'est
aussi,
ça,
je suppose.
Exactement. Donc moi c'est plus ça qui va me poser problème, peut-être m'imposer de manière juste. Mais voilà, et puis avec la culture locale. La culture locale, ça implique quoi, les retards de rendez-vous, tout ça. Donc je pense que
alors,
moi j'aime bien être
à cheval. Est-ce que vous êtes renseigné là-dessus, justement, sur la façon dont fonctionnent ces sociétés sur place? Parce qu'il peut y avoir aussi des aspects auxquels on ne pense pas en France, hein, mais ethniques aussi, plusieurs ethnies différentes. Il faut faire attention suivant à qui on s'adresse, les mots que l'on emploie. Il y a des aspects peut-être de hiérarchie qui n'ont rien à voir avec ceux qui existent chez nous. Est-ce que vous êtes renseigné là-dessus? Ou est-ce qu'on vous a renseigné là-dessus?
Alors nous, on a quand même pas mal échangé avec des familles qui ont vécu à Obala. De fait, je crois qu'au Cameroun, c'est assez, il y a beaucoup, beaucoup d'ethnies différentes, beaucoup de fonctionnements différents. Moi, j'ai envie de me laisser un peu surprendre, un peu de découvrir sur place la façon dont ça va se passer. Je pense que si on arrive avec toutes les armes...
les armes, pas forcément, ou la connaissance, en tout cas, peut-être.
On sait que c'est un fonctionnement très différent du nôtre.
C'est clivresque.
Ouais. Donc, on a eu quelques éclairages, mais pas plus.
Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Et vous, Adrien?
Nous, on s'est renseigné. Bon, effectivement, on a la chance d'avoir un ami, un couple d'amis sur place, à Abidjan. Bon, là, ça, c'est la ville, la grosse ville. Mais voilà, dans les campagnes, c'est un petit peu différent. Donc, il nous a expliqué qu'il fallait faire attention à l'heure de sortie. Donc, on ne sort pas le soir ni la nuit. On ne va pas à la frontière nord.
Oui.
Ça aussi, on est un peu suicidaire. Si on aime prendre des risques.
Oui, parce qu'il y a aussi, alors, je ne sais pas ce qu'il en est au Cameroun et au Côte d'Ivoire, mais des régions d'Afrique où il y a des combats, quoi.
Ouais.
Quasi continu. Hein.
Nous, dans une région.
Plutôt calme.
Plutôt calme. Au Cameroun, ce qui est compliqué, c'est surtout le nord et les régions frontalières avec les autres pays.
Nous, c'est très calme aussi, seulement il ne faut pas aller se promener à la frontière.
En tout cas, on vous a bien mis en garde de ce qu'on peut faire, pas faire, ou faire à ces risques et périls.
Après, c'est pas le plus inquiétant, parce que nous, on va prendre le rythme des locaux et les écouter, et puis observer, quoi, c'est tout.
Est-ce que le rythme du travail va être très prenant? On vous a prévenu là-dessus, ou est-ce que c'est comme en France? Vous avez des horaires bien précis, et on s'y tient?
Alors la vie commence tôt là-bas, comme le soleil se couche assez tôt, mais se lève assez tôt, et on vit au rythme du soleil, ce qui est assez chouette. Donc la vie commence assez tôt. Donc, je crois qu'à 7h30, 8h maximum, tout le monde est au travail. Donc il y a une grosse matinée de travail, mais je crois quand même que les partenaires ont à cœur qu'on puisse avoir une vie de famille, qu'on puisse voir nos enfants quand même s'en occuper, parce que le but n'est pas qu'on parte en mission à l'étranger et qu'on travaille plus que notre rythme français. Ce qui ne sera pas difficile pour moi, puisque je n'ai pas d'activité professionnelle. Donc je crois que les journées sont plus souples, en tout cas. Si l'un d'entre nous a besoin d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école, et les enfants finissent plus tôt qu'en France, ce sera possible. Je crois qu'il y a quand même une souplesse pendant les vacances scolaires. Voilà, nous, notre partenaire évêque, je crois, est assez exigeant dans le travail, parce qu'il attend des résultats, mais il y a quand même une souplesse dans l'organisation pour qu'on puisse vivre quand même notre vie de famille.
Et pour vous, Adrien?
C'est un peu similaire. Hein. Donc, je sais que j'ai entendu la messe à 6 heures. Donc là, je me suis dit, oula, on commence tôt. Mais après, avec le rythme du soleil, on s'adapte. Hein. Voilà, donc pas d'inquiétude sur ça. Et on prendra le pli et ça filera droit. Quoi.
Ouais. Comment vous imaginez votre vie là-bas, en dehors du travail? À quoi vont être occupés vos moments de loisirs? Bon, sachant qu'avec 4 enfants en bas âge, on est très occupé de toute façon. Mais est-ce que vous avez pensé à ce que vous ferez en dehors du travail?
Oui. C'est le premier truc auquel on a pensé avec les petits. Et ça fait partie de nos ressources aussi, également. C'est-à-dire que on va être dans l'euphorie au début, très certainement. Et après, la famille va nous manquer, il va y avoir si...
Il y a le mal du pays, ça existe. Hein.
Ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Donc nos ressources, ça va être de voyager, de visiter... le pays, les animaux. Donc nous, on a parlé d'hippopotames avec les petits.
Oui, c'était évidemment la faune, hein,
ouais.
Et la flore. Très
donc,
riche.
Très
on a
drôle,
compris
très
que
sympa.
Les éléphants seraient très loin, en fait.
Ouais.
On se rabattra sur autre chose.
Bon, les girafes.
Ouais.
Et puis voilà, nous, on est à une heure et demie de Abidjan. Et pareil, une heure de la côte, donc de l'océan. Donc on pourra très bien profiter des plages. Et c'est ce qui était motivant aussi pour les petits.
Et des activités de nature. Alors, je ne sais pas si vous parlez de randonnée, mais j'imagine qu'on peut, je l'espère en tout cas, en faire en toute sécurité, en prenant peut-être quelques dispositions. Vous, Solène, la vie extra-professionnelle, que ce soit avec les enfants ou aussi avec votre mari, vous avez déjà pensé à faire visiter certaines choses, découvrir certains lieux?
On aime bien marcher, donc je pense qu'on sera content de profiter de la nature, parce que voilà, il fait très chaud en Afrique, mais il pleut tellement pendant certaines saisons qu'en fait c'est très vert.
Pluie, oui.
Donc en fait c'est très vert, donc on sera heureux d'aller marcher. On nous a aussi conseillé une jolie plage. Après nous on sera vraiment plus loin, donc ce sera pour les vacances. Et après j'espère qu'on aura des amitiés sur place.
Alors ça c'est ce sur quoi on peut compter évidemment, voilà. Rencontrer des gens, que ce soit des locaux ou éventuellement des Français expatriés. Le mal du pays qu'on a évoqué avec Adrien, est-ce que vous le redoutez, ou est-ce que vous le redoutez pas forcément pour vous, mais pour votre mari ou pour vos enfants?
Pour mes enfants, je le redoute peut-être plus pour mes enfants qui n'ont pas fait ce choix de partir en mission. On les embarque avec nous. Mais donc, ce sera forcément un peu plus dur pour eux, même si tout le monde nous dit que les enfants s'adaptent plus vite. Mais en tout cas, nous, on a fait ce choix, donc ce sera peut-être moins difficile.
Alors, on a parlé de vos inquiétudes, mais quelle est votre espérance en partant pour cette mission de 2 ans? Comment vous espérez en revenir, vous et votre famille?
Nous, on a parlé un peu entre nous, c'est de revenir plus grandi au niveau de la foi. Nous, on veut faire grandir notre spiritualité en famille et en couple. Et ça, c'est important, on y met un point d'honneur sur ça. Et bien plus grandi aussi par rapport à s'abandonner au don de soi pour la personne, pour les populations, les gens qu'on va rencontrer. Donc, on sait qu'au début, il faut observer. Donc, je pense qu'on va trépigner un peu et on va vouloir tout de suite faire des choses. Mais il faut accepter de prendre le temps d'observer les gens et petit à petit de s'adapter à la population. Donc, nous, c'est une richesse humaine, la foi.
Donc vous pensez que votre vie spirituelle aussi, là-bas, sera aussi intense, peut-être même plus intense qu'elle ne l'était en France?
Mais on l'espère. Donc après, il ne faut pas être surpris parce que, par exemple, les églises ne vont pas fonctionner comme nous en France ou de la même manière. Donc là aussi, on nous prévient dans les retraites qu'on fait avec Fidesco. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt à ne pas faire... aller à la messe, par exemple, tous les dimanches, si on y allait, ou donc est-ce qu'on est prêt aussi à perdre un peu sur ça? Donc, je pense qu'il y a aussi la foi, la spiritualité en dehors de la messe. Il y a aussi ce qu'on peut découvrir dans la campagne ensemble, on peut prier à l'extérieur, voilà.
Solène, de votre côté?
Oui, moi j'espère une sorte de conversion intérieure, ou en tout cas de me laisser déranger par quelque chose d'un univers très différent du mien.
Bousculer.
Me laisser bousculer et me laisser conquérir par la joie des populations locales qui ont moins que nous, mais qui ont peut-être plus de joie.
C'est souvent ce que me disent les prêtres africains qu'on reçoit ici à Radio Présence, qui viennent en France pour prendre en charge des paroisses. Et qui ne retrouvent pas ici la ferveur qu'ils connaissent dans leur pays d'origine. Bon, ça c'est... Je pense que pour vous, ça sera évidemment une des choses intéressantes à découvrir. Alors, il nous reste quelques minutes. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous parrainer ou vous soutenir financièrement pendant votre mission, sachant qu'un don, comme pour n'importe quelle association, sera défiscalisé, comment il faut procéder et comment on peut vous contacter pour mettre ça en place?
Alors, nous, on met... Fidesco nous parle des lettres de parrainage. Donc on peut avoir des parrains et des marraines, même spirituels, parce qu'en fait les dons vont faire vivre Fidesco et nous feront partir aussi en mission pour soutenir les populations. Donc nous en fait on envoie des lettres de présentation de nos missions, de qui nous sommes, par voie postale, et la personne qui reçoit ce courrier le lit et puis peut aller plus loin dans la démarche de parrainage.
Donc la défiscalisation, c'est comme pour n'importe quel don en France, c'est 66%, c'est ça pour
C'est ça, donc par exemple, pour un don mensuel de 18 euros, ça ne nous coûtera que 6,12 euros. Voilà. Donc il y a des bulletins qui sont joints avec le courrier, donc des bulletins pour des particuliers et des bulletins pour des entreprises.
Oui.
Donc, si vous voulez parrainer Adrien, vous pouvez aussi aller sur le site de Fidesco dans l'onglet « Nous soutenir » et vous cherchez Adrien et sa femme dans le...
Oui.
dans la liste, dans le menu déroulant, et vous découvrirez leur mission et, et la possibilité
parce
de les soutenir.
Oui, parce qu'en en fait, lorsqu'on est parrainé, il y a un lien qui s'établit avec le parrain ou la marraine pour le missionnaire. Et vous, alors, c'est pas quotidien, bien sûr, ni même hebdomadaire. Mais je crois que tous les trois mois,
c'est ça,
vous faites un petit bilan de ce que vous avez fait sur place.
Tous les trois mois, oui. On renvoie un bilan, un report. Ouais. Tous
un
les
rapport
trois
de mission, oui.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent pour leur dire bah, parrainez-nous, parce que vous verrez que c'est formidable d'être en lien avec des gens qui sont comme ça à l'étranger et qui œuvrent pour le bien des personnes sur place.
Ouais, alors, il nous faut 450 adresses postales. Bon, ben, nous, on est loin du compte, on est à 250. Donc, en fait, notre première mission avant de partir, c'est celle-ci pour nous. Donc, ben, n'hésitez pas à nous contacter, puis on peut échanger aussi par la suite.
Ah, comment on vous contacte? On peut vous contacter directement, personnellement, ou il faut passer forcément par Fidesco?
Non, enfin, je pense que c'est avec... vous mettrez un lien sur
Radio...
Alors,
moi, je peux, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, s'ils le souhaitent, ils peuvent nous écrire à Radio Présence, hein, nous envoyer un mail. L'adresse, c'est tout simple, hein, c'est contact@radioprésence.com. On fera suivre. Bon, après, je ne sais pas si vous souhaitez personnellement donner une adresse mail où on peut vous contacter directement, ce qui peut
vous
être mieux pour certaines personnes. Hein.
Vous pouvez écrire à l'adresse mail don@fidesco.fr en donnant le prénom ou le nom de la personne... que vous souhaitez parrainer, et Fidesco saura nous retrouver.
Et vous, Adrien, même adresse ou vous avez une autre adresse à communiquer?
C'est exactement la même.
Bon,
voilà.
Alors, j'espère que tout le monde aura bien noté.
Moi, j'espère.
On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages et merci d'être venus nous présenter Fidesco et les missions que vous allez mener pour cette ONG, donc au Cameroun pour la famille de Solène et en Côte d'Ivoire pour celle d'Adrien. On va vous souhaiter beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur dans cette entreprise. Donc, je le rappelle encore, pour ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient vous parrainer et vous soutenir tout au long de vos missions, je rappelle qu'ils peuvent nous contacter par mail à l'adresse contact@radioprésence.com. Nous ferons suivre les messages à Solène et à Adrien. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.